CQFD. Sur RTS, la première.
Un peu de neurodiversité à présent dans CQFD. On va l'évoquer à travers le portrait de 9 esprits singuliers, Lucia Silig.
Oui, ces portraits sont réunis dans le dernier livre de Daniel Tammet, l'écrivain autiste britannique, connu pour ses écrits, notamment « Je suis né un jour bleu », son autobiographie, mais aussi pour son aisance surprenante avec les chiffres et les nombres, leurs couleurs, leurs textures et même leur caractère. Une complicité, une relation intime qu'il a avec ces nombres, qu'il a probablement aidé en 2004 à réciter 22 514 chiffres après la virgule du nombre pi. Alors Daniel Tammet en a d'ailleurs peut-être un peu marre qu'on rappelle cet exploit, mais j'essaie de planter le décor assez rapidement pour qu'on puisse parler du reste.
Ouais, et le reste donc, c'est ce dernier livre.
Oui, un livre intitulé « Des pierres, ils ont fait des étoiles » et publié aux éditions Les Arènes, dans lequel Daniel Tammet fait le portrait de 9 personnes neuroatypiques comme lui. Il y a cet enquêteur anglais dont l'attention aux détails permet de résoudre des affaires particulièrement compliquées, ou cette ingénieure nigériane qui imagine des maisons qui s'étirent ou pivotent pour s'adapter aux intempéries ou atténuer les nuisances et qui personnellement me font assez rêver, hein, un peu comme le château ambulant du cinéaste Hayao Miyazaki. Voilà. Il y a aussi le mathématicien et politicien français Cédric Villani, ce chirurgien spécialiste de la main, de sa reconstruction, comme d'autres sont spécialistes des puzzles avec des infinités de fragments, ou encore le parcours étonnant de l'acteur Dan Aykroyd, fasciné par les fantômes, qui a joué entre autres dans Ghostbusters, dont il a écrit le scénario original. Bref, une plongée passionnante dans 9 esprits singuliers avec une manière d'aborder les choses, de réfléchir, une sensibilité aussi bien à elle.
Daniel Tammet est avec nous aujourd'hui dans CQFD. C'est une bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Merci d'être avec nous de notre studio de Paris. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ?
Bah, ça fait un petit moment qu'on parle de plus en plus de la neurodiversité et je trouvais qu'en tant qu'écrivain, il restait encore de la marge pour raconter ses vécus, ses vies de l'intérieur, comment ces personnes se construisent dans le temps face à une société qui souvent ne comprend pas leurs différences. Et puis, par ce livre, enrichir la diversité de la littérature. C'est-à-dire qu'autrefois, les femmes n'avaient pas leur place. Il fallait, pour écrire un livre, qu'une femme prenne le pseudonyme d'un homme, par exemple. Et puis plus tard, c'était aussi pour les personnes LGBT, difficile de se retrouver dans un roman, dans des nouvelles, dans des textes. Puis des personnes issues de l'immigration également. Et au fur du temps, l'évolution change, la société change, évolue, je veux dire. Et aujourd'hui, c'est autour des personnes neuroatypiques, autrefois appelées autistes, à eux d'avoir possibilité de contribuer à ce que c'est la littérature, enrichir ainsi notre façon de voir le monde et de voir notre humanité commune.
Et vous montrez finalement aussi certaines situations où la neurodivergence est un atout.
Oui, bien évidemment. Autrefois, les scientifiques se penchaient surtout sur ce que ces personnes n'arrivaient pas à faire. Et aujourd'hui, de plus en plus, on est plutôt dans l'optique et dans l'idée de se dire « Mais qu'est-ce que les gens, ces personnes-là, peuvent faire ?» Ils peuvent faire plein de choses. Les gens neuroatypiques, ils peuvent faire plein de choses. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire plutôt que ce qu'ils ne peuvent pas faire? Ils peuvent résoudre des enquêtes. En tant que enquêteur criminel, par exemple, ils peuvent obtenir un doctorat. Ils peuvent devenir une star hollywoodienne comme Dan Aykroyd. Ils peuvent devenir chirurgien de la main. Ils peuvent faire plein de choses. Donc, c'est à la société de s'ouvrir à cette différence-là. Laisser la place à des personnes qui pensent et qui ressentent les choses, qui perçoivent les choses différemment.
Vous dites autrefois, on disait autiste. Alors, est-ce que toutes les personnes dont vous parlez dans ce livre, elles se situent quelque part sur le spectre de l'autisme ou est-ce qu'on dit autrement? Enfin, comment est-ce que vous qualifiez ce qui relie les personnes qui sont dans votre livre?
Alors, ils sont tous en effet autistes. C'est-à-dire qu'ils ont tous été diagnostiqués autistes. Après, la neurodiversité, c'est un terme en cours d'évolution. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent, par exemple, tout ce qui parle de dyspraxie, dyscalculie, dyslexie, troubles d'attention. Ces personnes-là... Euh, peuvent aussi se trouver dans ce qu'on pourrait appeler le spectre neurodivergent ou neuroatypique. Mais pour ma part, le livre s'intéresse plus particulièrement à des vécus, à des vies intérieures de personnes autistes.
Alors, un exemple qui m'a frappé, vous y avez d'ailleurs fait allusion, hein, c'est celui de l'acteur canadien Dan Aykroyd, qui joue notamment, on l'a dit, dans Ghostbusters, dont il a écrit le scénario original. On dit souvent, je ne sais pas s'il y a tort ou raison, mais qu'une des caractéristiques de l'autisme, ce sont les difficultés dans les interactions sociales, dans la communication, dans la lecture des émotions des autres, etc. Dan Aykroyd, lui, il a écrit toutes sortes de sketchs humoristiques, il les a joués, notamment dans Saturday Night Live. Pourtant, pour faire rire les gens, il faut une sacrée dose de compréhension et de maîtrise des interactions sociales, non ?
Mais c'est ça qui est fascinant dans son cas, et c'est pour ça que j'étais très intéressé par son histoire, son parcours qui est très peu connu, même de ses fans. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer et de faire parler plein de personnes autour de Dan Aykroyd, ses amis d'enfance, les personnes qui ont travaillé avec lui tout au début de sa carrière et qui ont vu cette évolution, qui était une évolution à la fois professionnelle mais surtout personnelle. C'était un enfant très atypique qui avait beaucoup de TOC, qui souffrait énormément de solitude. Et au fur et à mesure, il a trouvé dans le théâtre, d'abord, ce qu'aujourd'hui on appellerait peut-être la dramathérapie, moyen de s'épanouir, de s'éclore, de trouver ses marques, d'apprendre à regarder les gens dans les yeux, à communiquer, à mettre des mots sur ses émotions, sur les émotions d'autrui. Et puis, il avait beaucoup d'humour, il avait toujours eu beaucoup d'humour, donc il a eu cet humour pour désarmer des enfants autour de lui qui ne le comprenaient pas, qui allaient plutôt l'harceler, qui l'harcelaient beaucoup même, parce que si différent des autres. Mais il a compris que l'humour, ça lui donnait un moyen de se protéger et d'interroger le monde qui l'entourait, qui trouvait par moments très compliqué à vivre et en même temps contradictoire ou aussi hypocrite même. Donc le regard des personnes neuroatypiques sur la société, c'est très intéressant aussi parce que c'est un autre regard, c'est une autre façon de penser notre société. De la même manière qu'autrefois on excluait les femmes ou les personnes LGBT, et avoir la possibilité aujourd'hui d'inclure leur perspective, d'avoir à travers les yeux de Toni Morrison par exemple, immense écrivaine américaine d'origine afro-américaine, avoir ce regard-là, ça permet, comme le regard d'Anna Croyd, aux personnes qui ne sont pas neuroatypiques mais qui veulent découvrir une autre façon de se voir, de voir le monde qui les entoure, d'avoir ces yeux-là, d'autres yeux pour regarder, pour s'interroger aussi.
Mais à propos de Dan Aykroyd, vous racontez aussi que les médecins ont d'abord parlé de schizophrénie infantile, hein, c'était un terme de l'époque, dans les années 50-60. On parlait aussi d'un excès d'imagination qui conduisait l'enfant à se replier sur lui-même. Est-ce que vous soulignez dans votre livre qu'à cette époque, on n'associait pas l'autisme à une incapacité? Vous le soulignez parce que cette idée d'imagination débordante, vous avez l'impression que ça correspond mieux, en tout cas en partie, à certaines personnes autistes ?
Oui, absolument. Autrefois, en effet, on diagnostiquait l'autisme justement en disant que ces enfants-là ont trop d'imagination. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. En fait, je pense que, et de plus en plus, les chercheurs reviennent sur cette idée-là et ils se disent en effet, il y a une imagination qui est forte. Est-ce qu'elle est débordante? Est-ce qu'elle empêche l'enfant d'aller vers l'autre? Ou est-ce que c'est d'autres choses encore? Mais en tout cas, cette imagination-là existe. Elle est riche, elle est importante au cœur des vies des personnes autistes. Et elle est très, très peu racontée, en fait, dans la littérature, y compris la littérature scientifique. Et donc, ce livre, c'est aussi une façon de répondre à cela et montrer que ce soit par l'imagination avec laquelle je me mets à leur place, à la place de ces 9 personnes, ces 9 femmes et hommes qui vivent dans le monde entier, dans des cultures très différentes, une japonaise, une nigérienne, une australienne, un français, un canadien, un américain. C'est très... ça montre aussi la diversité immense au sein même de la neurodiversité.
peut-être très rapidement dire aussi que dans votre livre, il y a, bon, vous montrez beaucoup de personnes qui se sont bien adaptées au monde du travail ou qui ont trouvé un endroit, mais qu'il y a aussi, par exemple, l'exemple de Billy qui est non-verbal, qui doit utiliser une machine pour communiquer. Il y a des gens qui sont très, très différents.
Oui, oui, en effet. Quand on pense à l'autisme, souvent, on a le... À tort, on pense souvent à des enfants qui ne parleront jamais, qui n'ont pas de compétences sociales. Et une grande majorité, trois quarts au moins des personnes autistes, en fait, parlent, s'adaptent plus ou moins bien à la société. C'est à la société, en fait, de s'adapter aussi à ces personnes. On parle de l'empathie, un problème d'empathie parfois, mais je trouve que ça va dans les deux sens. C'est aussi à la société neurotypique de s'adapter aussi à ces personnes, à trouver leurs dons, leurs particularités et moyens pour eux, comme pour Dan Aykroyd dans le Canada des années 50-60, moyens de s'épanouir aussi et contribuer à part entière à leur société.
On ne peut que recommander de lire votre livre, Des pierres, ils ont fait des étoiles. Merci beaucoup Daniel Tammet, c'est paru aux éditions Les Arènes. 9 portraits de personnes neuroatypiques. Merci d'avoir été en direct de Paris ce matin, invité par Lucia Silig.
CQFD à 10h sur RTS La Première.